Voilà un an que le brigadier ne fera plus les trois coups annonciateurs d'une pièce sur les planches des théâtres. Voilà un an que la culture est mise entre parenthèses, faute à l'épidémie de coronavirus. Sauf que les intermittents du spectacle toussent, et non pas parce qu'ils sont symptomatiques, mais parce qu'ils se disent atteints d'un mal social qui les rongera encore longtemps. Les travailleurs de la culture ont entamé depuis le 4 mars dernier la bataille des planches, l'occupation des théâtres. Tout a commencé à Paris. Désormais, une soixantaine de lieux culturels sont occupés et dès ce soir, la gronde gagnera les Alpes du Sud et notamment la scène de la passerelle à Gap. Bonjour, Émilie Régnier.
Bonjour.
Vous êtes comédienne de la compagnie de la Louba.
Oui.
Et Laurent Hérochaume, bonjour, secrétaire régional du CINAVI, le syndicat national des arts vivants.
Bonjour.
Art vivant ou art moribond ?
C'est une bonne question. Art vivant, mais c'est plutôt les artistes qui sont en difficulté. L'art, il existera toujours, mais c'est ça qui nous inquiète en tout cas.
Justement, Émilie, quel est le quotidien aujourd'hui d'un intermittent du spectacle, d'une comédienne comme vous ?
Eh bien, c'est lutter pour continuer à faire son métier. Moi, ça fait 20 ans que je suis intermittent du spectacle. J'ai pas perdu mon statut depuis 20 ans. Et là, cette année, si par exemple l'année blanche n'est pas reconduite, je vais le perdre pour la première fois. Donc après, c'est ne pas avoir de perspective et du coup se dire, il faut quand même gagner de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait ?
Alors l'année blanche, on va revenir dessus parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Cette année blanche a été l'une des premières demandes qui a été faite, c'est-à-dire mettre entre parenthèses le nombre d'heures qui est nécessaire pour qu'un intermittent du spectacle conserve son statut, tout comme ses droits d'allocation chômage. Si demain vous n'êtes plus intermittente du spectacle, ça veut dire quoi ?
Eh bien, ça veut dire le RSA, voilà, rien. Ou alors essayer de trouver un autre métier.
Laurent Hérochaume, cette demande qui a été faite auprès du gouvernement, est-ce qu'elle est entendue ?
Alors pour l'instant, elle n'est pas entendue. Elle a été entendue l'année dernière, au début du premier confinement. Ça a été une demande de toutes les organisations professionnelles. Jusqu'au 31 août 2021, ça a été vraiment un acquis, j'allais dire un conquis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour beaucoup d'intermittents du spectacle, surtout, notamment les plus précaires, je pense notamment aux techniciens dans les musiques actuelles, dans l'événementiel, enfin voilà, dont on parle pas toujours. Voilà, il y a plus de concerts debout depuis très longtemps. On a vu dans les assemblées des copains qui ont fait 30 heures déclarées, 40 heures déclarées, et donc c'est des gens qui, pour l'instant, même s'il y a eu la première année blanche, faut bien comprendre ça, ont eu des baisses de revenus jusqu'à 50% de baisses de revenus. C'est-à-dire que une personne qui pouvait gagner 1500 euros se retrouve avec 750-800 euros d'indemnité depuis un an.
Donc il y a bien déjà eu l'année blanche en 2020, mais il y a eu quand même une perte de revenus.
Il y a déjà une grosse baisse de revenus pour beaucoup de gens. Alors il y a des compagnies qui continuent à travailler, qui continuent à faire des ateliers, des résidences, etc. Il y a eu des mécanismes de soutien pour les théâtres, des mécanismes de soutien pour faire en sorte que, on va dire, le cercle vertueux de l'économie de la culture continue. On pensait que la culture allait reprendre en septembre 2020 et on pensait que les théâtres allaient réouvrir, ce qui a été le cas pendant 2 mois. Et malheureusement, ça a refermé tout de suite fin octobre et on se retrouve dans une situation où on a une deuxième saison qui complètement disparaît. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que le mécanisme de l'année blanche pour les intermittents qui n'ont pas fait leurs heures. Hein. La question, ce n'est pas tous les intermittents, c'est pour ceux qui sont vraiment dans la difficulté, leur permettre de rester dans le métier. C'est pour eux-mêmes d'abord, parce que c'est une question de précarité sociale, et puis c'est pour le secteur d'activité en entier. Il faut bien comprendre qu'une personne comme Émilie, c'est des compétences qui sont développées pendant 20 ans, mais on pense à des techniciens qui ont des spécificités, des sonorisateurs ou des ingénieurs lumière qui vont travailler, par exemple, sur un outil technique. Si ces gens-là changent de métier, en septembre, le théâtre La Passerelle ou les autres théâtres n'auront plus ces compétences sur le terrain. Donc, c'est pas juste une question c'est une question d'abord sociale et de précarité, mais c'est aussi un enjeu de si on veut de l'art et de la culture demain, il faut que les gens puissent vivre de leur métier.
C'est
tout
ce que disait Philippe Ariano, le directeur de La Passerelle, qui était l'invité du 8-30 à votre place hier. Il s'inquiétait énormément de cette prochaine saison. Ce qu'il disait, c'est qu'il y a bien eu des aides, comme vous l'avez souligné, il y a bien eu des aides qui ont été mises en place pour les lieux culturels, pour les théâtres, ce qui leur a permis payer aussi les compagnies en place. Par contre, toutes celles qui n'étaient pas forcément dans le circuit programmatique n'ont pas pu bénéficier de toutes ces subventions.
Par exemple, moi, je fais beaucoup de spectacles jeunes publics pour les écoles. Et voilà. Donc là, on a des spectacles, on est en création, mais on aimerait jouer.
Émilie, vous le disiez il y a quelques instants, ben voilà, si je ne suis plus intermittente, du coup, il faudra que je fasse autre chose. Ça vous a déjà traversé l'esprit en disant, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire moi demain ?
Oui, j'ai commencé à regarder, à chercher autre chose, ouais, parce que je ne peux pas rester sans travailler. Alors, heureusement, j'ai un conjoint qui, lui, n'est pas dans le métier, mais je pense à tous ceux dont les deux sont intermittents. C'est très, très problématique. Ouais.
Vous le dites, hein, cette demande d'année blanche est vraiment ce qui va sceller en fait, l'avenir de la culture. Si ça ne passe pas, quel sera l'avenir demain ? Vous avez notamment rencontré, je crois, Laurent Hérochaume, la semaine dernière, le maire de Marseille, Benoît Payan.
Oui, alors c'était finalement son adjoint, mais ce qui est vraiment flagrant dans ses occupations, c'est que dans un premier temps, la question de la réouverture est apparue en premier. Et on voit à Marseille et à Gap, on l'a vraiment bien senti avec la marche qu'il y a eu samedi dans les rues de Gap avec 600 personnes rassemblées pour défendre la culture. Il y a un désir dans la population de dire une vie sans culture et sans art, c'est pas vraiment une vie. Comment on pourrait faire pour que les arbitrages sanitaires nous permettent de continuer à voir des spectacles, etc. Et puis très vite, cette question de l'année blanche d'abord, une réflexion dans la profession sur comment ne pas recommencer comme avant. Comment faire en sorte que le secteur de la culture soit respecté dans sa globalité. Et ça ne m'étonne pas de la part de Philippe Ariagno qu'il ait pu vous rentrer dans le détail du fait qu'il y a des gens qui sont... Il y a les compagnies qui sont proches des scènes nationales, qui sont moins impactées. Mais on se retrouve dans une situation, et le département des Hautes-Alpes est vraiment un très bon exemple pour ça. En fait, la vie culturelle, ce n'est pas seulement les grands théâtres. C'est tout un maillage du territoire. On se retrouve avec des restaurants qui accueillent des concerts régulièrement, des lieux d'éducation populaire qui font des spectacles avec des débats, des rencontres, des choses comme ça, les cinémas sur les territoires. Et donc, comment l'argent public, le plan de relance pour la culture, pour rentrer dans le détail, peut être un outil pour que dès la réouverture, on ait de l'argent qui aille directement au plus proche du terrain et pas seulement... Éviter le saupoudrage et en même temps, je ne sais pas si la formule est la bonne, mais en même temps, le risque qu'on a eu, c'est que, par exemple, il y a des structures pour qui c'est facile d'avoir un dialogue avec le ministère de la Culture.
Comme une
scène nationale, une scène conventionnée, qui ont des rendez-vous réguliers avec des techniciens. Ministère de la Culture qui a été lourdement attaqué depuis 20 ans et dont il n'y a pas beaucoup de salariés. Pour eux, c'est plus facile de dire je donne 40 000 à une structure dont je sais qu'elle a les outils pour le faire que de donner 3 000 à un groupe de musique à Briançon, 2 000 à un groupe à Embrun et à une compagnie
de théâtre. En fait, les petites structures ont du mal à se faire entendre, mais parce qu'elles sont peu structurées.
Parce qu'elles sont plus petites et plus proches du terrain. On a bien vu d'ailleurs, vos auditeurs le connaissent bien, le sujet des saisonniers. On voit bien, par exemple, que les profs de ski ont une capacité d'organisation très forte. Les ESF se sont structurés et ont très vite conquis des droits pour les profs de ski, alors que certains saisonniers qui étaient moins organisés sont dans des difficultés sociales terribles. Dans la culture, c'est exactement pareil.
Il manque un lobby fort aux arts vivants.
Il manque un lobby et puis, en fait, finalement, ça raconte quelque chose de comment nous voulons-nous vivre ensemble. Ça raconte quelque chose de dans quelle société on veut vivre. Et les Hautes-Alpes, la ruralité, je pense que tout le monde peut comprendre que voir un spectacle, un festival jeune public à Guillestre en plein été, les festivals du conte dans le Champsaur, enfin voilà, toutes ces petites formes qui ont partout, les festivals de jazz, d'humour, etc. Toutes ces choses-là font la vie artistique et la vie culturelle et pas seulement les grands équipements. Donc comment fait-on pour que l'argent du plan de relance arrive aux personnes qui sont les plus en difficulté? C'est ce qu'on défend au Sinavi, c'est notre cheval de bataille en ce moment.
Émilie Régnier, j'ai posé cette question, j'ai lancé cette question. Comment voyez-vous l'avenir de la culture demain?
Moi, ce dont je rêve, c'est un théâtre qui soit populaire et qu'on puisse aller jouer comme ce que je faisais avant, mais encore plus auprès des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui apportera au grand théâtre un nouveau public différent.
Oui, parce que la culture essaie de se réinventer, on l'a beaucoup dit, beaucoup vu, la culture essaie de se réinventer, le 2.0, etc.
Il ne faut pas que le théâtre il soit pour les gens de théâtre. Il apporte beaucoup à des gens qui sont en réinsertion professionnelle. J'ai travaillé dans des foyers pour enfants placés. Et ça leur apporte beaucoup. Et moi, ça m'apporte beaucoup. Et j'ai l'impression que, du coup, mon travail a du sens.
Alors, ce soir, je le disais, c'est une occupation itinérante qui démarre dans les Alpes du Sud. Coup d'envoi du côté de Gap avec l'occupation de la scène nationale La Passerelle, Émilie.
Oui, alors c'est une occupation. On n'est pas là pour les empêcher de travailler. on est vraiment, enfin, la passerelle. Nous, on essaye que ça se passe bien, et je pense aussi. Tout le monde a le droit de travailler. On est, voilà, juste là pour qu'on...
C'est en accord avec la passerelle ?
Oui, c'est totalement en accord, ouais.
Et qu'est-ce qui va se passer, du coup ?
Eh bien, le soir, on va être sur le parvis pour discuter avec les gens, nous aussi organiser comment ça va se passer. Mais ça sera surtout le mercredi, où il y a quand même pas mal de passages. C'est d'aller à la rencontre des gens, de recevoir des témoignages, des petites vidéos, des choses comme ça, pour avoir leur ressenti et savoir aussi, eux, leurs demandes d'un point de vue culturel.
Voilà, une occupation itinérante qui démarre donc dès aujourd'hui du côté de Gap. Très rapidement, Laurent.
Très rapidement, juste pour dire qu'on va essayer de toucher plusieurs lieux dans les Hautes-Alpes et donc aussi de raconter cette diversité. Donc, on
va essayer
Briançon. On est plutôt sur les Hautes-Alpes pour l'instant, mais l'idée, c'est Embrun, Briançon, Vennes peut-être. Et donc, il faut suivre les aventures de cette occupation itinérante qui est la première en France. Et on a des coups de fil d'un peu partout des départements ruraux qui veulent suivre l'exemple des Hautes-Alpes.
Merci beaucoup, Émilie Régnier, d'avoir été avec nous.
Merci.
Je rappelle que vous êtes comédienne au sein de la compagnie de la Louba. Merci Laurent Hérochaume, secrétaire régional du Syndicat national des arts vivants, le CINAVI. Merci.